Donc bonjour, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Marie Didier dans notre petite librairie éphémère Gallimard, qui va bientôt fermer ses portes d'ailleurs, puisqu'à la fin du mois, elle n'existera plus. En tout cas, c'est aussi la première fois pour nous que nous accueillons Marie Didier à la librairie, voilà, et nous en sommes vraiment enchantés.
Triomphalement, je vous souligne.
Alors, on va faire une petite, un rapide curriculum vitae. On va donc présenter Marie Didier. Marie Didier, vous êtes médecin. Enfin, je pense encore. Et vous êtes surtout écrivain, déjà depuis plusieurs années. Vous avez débuté donc votre carrière d'écrivain avec un livre publié chez Gallimard qui s'appelait « Contre-visite », dans lequel vous racontiez votre expérience de médecin, professionnelle et humaine, à la rencontre d'une population très large, de gens...
Pas uniquement. Pas uniquement des marginaux.
Ah, j'ai pas dit... Ah oui, d'accord. Je voulais dire très large. Pas des marges. Oui. Très, très large, justement. Qui allait justement d'une clientèle... tout à fait normal, à une clientèle peut-être un peu plus déshéritée. Voilà. Donc vous avez écrit un livre magnifique où vous racontiez donc cette expérience. Et puis plus tard, vous avez écrit un livre qui m'a énormément touchée, moi, qui s'appelait « Dans la nuit de Bicêtre », dans laquelle vous racontiez l'histoire de la vie d'un homme qui est totalement oublié aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Baptiste Pussin, qui était un homme modeste, très humble, et qui pourtant a été très, très important dans l'histoire de la psychiatrie contemporaine, puisque cet homme a été celui qui a libéré les fous de leur chaîne. C'est un homme qui n'était rien, qui vivait donc dans cet hôpital de Bicêtre, où traînaient des tas de gens alors de toutes sortes. Il y avait des grands malades, mais il y avait aussi des fous, il y avait des gens incurables, il y avait aussi des miséreux. Et cet homme était là pour traiter une tuberculose. Et puis cet homme est resté toute sa vie. Et il a été amené donc à s'occuper de ces pauvres miséreux. Et il a aidé à collaborer, en tout cas, avec le médecin Antoine Pinel, qui était donc le médecin qui était en charge des fous. Et cet homme a eu l'idée, tout simplement, juste par intuition, et par compassion, que ces fous qui étaient en face de lui, c'était des êtres humains comme tout le monde, et que si on leur enlevait leur chaîne, peut-être que quelque chose irait mieux, et peut-être qu'il fallait essayer, en tout cas. Et voilà. Et donc cet homme était à l'origine vraiment d'une révolution dans la psychiatrie. Donc moi, c'est un livre qui m'a vraiment touchée. On a ressenti beaucoup de proximité, en tout cas de votre part, avec cet homme. Et c'est comme ça que j'ai ressenti aussi votre grande attention et votre grande capacité de compassion à l'égard du genre humain. Voilà.
N'en rajoutons pas trop.
Hein. Mais oui, mais moi, ça m'a énormément frappée, et je pense que ça a beaucoup, beaucoup frappé le public aussi. Et aujourd'hui, donc, vous venez pour un livre qui s'appelle « Le veilleur infidèle ».« Le veilleur infidèle », qui est un roman... dans lequel vous racontez l'histoire d'une femme, de l'enfance à l'âge adulte, à travers les épreuves qui ont ébranlé sa vie. Donc la maladie, d'abord la mort d'un père, la maladie à l'adolescence, et puis après encore un chapelet de souffrance, et puis encore la maladie, et puis aussi le deuil. Voilà. Donc cette femme a vécu des tas d'épreuves, des tas et des tas d'épreuves. Et dans toute cette série d'épreuves, quelque chose l'a aidée à vivre. En tout cas, quelque chose ou quelqu'un, on ne sait jamais, vous allez nous en dire un peu plus, c'est ce veilleur. Alors ce veilleur, c'est une sorte de... Comment dire, c'est quelque chose, en tout cas, qui lui a permis de se détacher des événements qui lui arrivaient, et qui, comme un dédoublement de personnalité, en fait, l'aidait, avec beaucoup de lucidité, à approcher l'événement en soi. Alors moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais vous allez peut-être nous le décrire peut-être un petit peu mieux. et nous en parler.
Oui, je comprends que c'est pas facile, mais ce veilleur, c'est quelque chose que nous avons tous. Nous le possédons, c'est-à-dire que c'est cette sorte de zone intacte qui est toujours au fond de nous depuis la naissance, et que au fil de ce qui nous arrive, au fil des émotions plus ou moins violentes, nous recouvrons tant que nous pouvons, souvent par la jalousie, par la peur, par le désespoir, par la rancœur. Et si on enlève tous ces oripeaux, et c'est toute une gymnastique de l'esprit, c'est tout un travail, c'est toute une ascèse quasiment, on découvre cette zone intacte que chacun, donc, je le répète, possède en soi, et qui peut nous aider, non pas à prendre une distance, mais à rester un peu paisible et efficace devant ce qui peut nous arriver. J'étais très touchée, j'ai eu dans les mains hier, et je l'ai lu dans le train en venant, un tout petit livre de Valérie. C'était une conférence qu'il a faite en 1935, qui s'appelle « C'est au sujet de l'intelligence », où là, j'ai été stupéfaite en le lisant dans le train, je l'ai annoté, enfin je l'ai souligné partout, parce qu'il dit, en 35 déjà, tout ce qui nous arrive actuellement, c'est un texte pratiquement prophétique, nous devons par un effet de volonté, par notre propre volonté, par la volonté de notre esprit, quitter nos anciennes habitudes pour retrouver une zone intacte enfin en nous. Et donc j'ai été vraiment saisie par ça. Donc, in fine, cette chose que nous possédons tous, que l'on peut appeler la conscience, que l'on peut appeler l'esprit, ça se cultive, ça se travaille, c'est comme un petit peu, et je repense encore à Valérie tout à l'heure, c'est une sorte de sport spirituel, de gymnastique de l'esprit. Tout comme il faut entretenir le corps, souvent en faisant des exercices pour ne pas trop se rouiller, eh bien, c'est un acte de vigilance par rapport à nous-mêmes, auquel nous devons être fidèles, parce que ça peut nous éviter la haine, ça peut nous éviter le cauchemar du désespoir. Ça ne veut pas dire qu'on a le bonheur, pas du tout, mais ça veut dire que on reçoit les choses moins de plein fouet, et surtout avec une sérénité, et peut-être même un amour, enfin. Au fond de nous, il y a une joie stable que nous fichons en l'air en permanence. Voilà. Et au fond, c'est cette recherche de cette joie stable que nous possédons, même si on est très vieux, même si on est très malheureux. Oui, qui s'en va, vous n'êtes pas d'accord? Oui, ça vous paraît tournicoté, ça. Eh bien, je comprends. Pourquoi? Oui, mais je comprends. Ça vous paraît difficile. Assez intéressant ce que vous dites, une profession de foi, oui. Je comprends qu'on le vive comme ça.
Pourtant, ce n'est pas...
Et pourtant, ça n'est pas une profession de foi.
Ça n'a rien à voir avec la foi.
Ça n'a rien à voir avec la foi. Ça n'est pas une profession de foi. Quand on s'est trouvé en bagarre avec d'énormes malheurs, on a deux solutions. Ou on sombre, ou on essaie de se redresser. Et dans ce livre, alors évidemment, ça paraît inaccessible, mais c'est un boulot. C'est une gymnastique de l'esprit. Et que ce soit Héraclite autrefois, Épictète, dans l'Antiquité, ou que ce soit cette femme qui a été ma compagne depuis une vingtaine d'années, qui s'appelle Etty Hillsoun, et si vous ne prenez qu'un livre, ce sera celui-là, où c'est des êtres qui, face à l'extrême du malheur, je dis bien à l'extrême du malheur, au lieu, par exemple, Etty Hillsoun, au lieu, elle, de se laisser par tous les autres juifs qui étaient autour d'elle et qui haïssaient l'allemand, qui avaient peur, elle a fait en quelque sorte une sorte de rétro-pédalage. Elle a dit non, moi je ne veux pas tomber là-dedans. Et, c'était une femme comme nous. Elle a connu des amours illicites, n'importe comment. Elle a traduit Rilke. Elle aimait le géranium sur la fenêtre. Elle était en colère. Elle était jalouse. Elle était aimante. Elle était au fond comme un être humain normal. Et alors elle, évidemment, elle croyait en Dieu. Bon, moi j'y crois pas, hein. Mais c'est ce processus que nous sommes libres, chacun d'entre nous, de mettre en marche ou de ne pas mettre en marche. Alors, je n'ai peut-être pas répondu à votre critique de la profession de foi, mais je peux vous dire que c'est une bagarre que je connais. Je me casse la figure souvent, mais parfois, cette sorte de travail sur soi-même s'avère efficace, et pour soi-même, et pour autrui aussi. Parce que c'est intéressant, ça. C'est un boulot qu'on fait pour soi, le fait de rester ouvert à ce qui vient, mais aussi c'est pour les autres. Parce que on discutait tout à l'heure de Strauss-Kahn. Il y avait deux attitudes tout à l'heure. La critique violente, qu'on peut tout à fait comprendre, et puis une autre posture, c'est-à-dire d'où ça vient. Alors c'est le pouvoir peut-être, bon enfin on n'est pas là pour discuter de DSK, mais ou bien est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé dans sa vie, enfin. Alors on peut trouver qu'on trouve toujours une excuse, mais en fait il y a tout un travail. Quand on fait soi-même ce propre travail, on a une sorte de capacité à le regarder chez autrui, à se dire, bon, mais d'où ça vient, plutôt que de laisser partir le jugement comme ça, brutal, sauvage, et qui est souvent, je ne dis pas ça pour Sylvie, mais qui est souvent entaché d'une certaine... non pas une critique, mais disons de nuance.
Oui.
De nuance.
Oui,
nous parlons de la nuance. Je veux dire que, si vous voulez, nous, quand même, nous avons une plaque sensible en nous, nous avons une zone. Pourquoi on est malheureuse, forcément ? C'est pas forcément l'extérieur qui est responsable de nos souffrances. Hein ? Bon. Quand on voit Boris Cyrulnik qui s'en est sorti comme il l'a fait, on peut se dire qu'alors vous appelez ça pulsion de vie. Eh bien, je crois que certains qui n'ont pas cette pulsion de vie, qui ne l'ont pas, et ça arrive.
On peut développer, hein, en tout cas.
Ça arrive, ça peut se développer. Je vous assure, ce tout petit livre de Valérie que j'ai lu tout à l'heure encore, sur le sport spirituel auquel nous avons quasiment le devoir de nous astreindre, ça sous-tend le fait que nous n'avons pas tous la même pulsion de vie, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, mais que si nous sommes alertés de la possibilité de ce travail, nous pouvons nous mettre en chemin, c'est possible.
Justement, c'est vrai que ça peut, enfin, en tout cas, on pense forcément à la pulsion, parce que plus tard, on va parler aussi de la pulsion de mort dans un moment. Mais d'ailleurs, moi, ce que j'aimerais, c'est que Marie nous explique pourquoi elle a voulu appeler son livre Le Veilleur Infidèle.
Oui, mais non, je voulais l'appeler Le Veilleur tout court, mais malheureusement, celui à qui, vraiment, c'était l'acte manqué, celui à qui je l'ai envoyé chez Gallimard, le lecteur, c'est Roger Grenier, qui m'a répondu. Il m'a dit, bon, on le prend tout de suite avec Pontalis, mais Le Veilleur, j'ai écrit un livre il y a 10 ans de ça. Que j'avais dans ma... Donc, il m'a coupé l'herbe sous les pieds. Je n'ai pas pu l'appeler. Donc, je voulais appeler Ralentir. Et ça n'a pas plu. Donc, ben voilà, Veilleur infidèle, parce qu'il s'en va, ce veilleur.
Il disparaît, oui. De temps
parce
en temps.
Qu'il disparaît.
Il apparaît et disparaît. Voilà,
je voudrais que vous me disiez pourquoi la pulsion de vie, pourquoi tant de gens font de la psychanalyse ? C'est bien qu'ils pensent qu'il y a un travail à faire sur soi. Alors il y a plusieurs voies pour se sauver. Il y a le travail analytique, Moi, je ne sais pas, hein, je ne l'ai jamais fait. Il y a le travail créatif, sans doute, et il y a une voie spirituelle, comment dire, une espèce de verticalité qui n'est pas forcément liée à un dieu, mais qui est le travail spirituel d'Épictète, le travail spirituel d'Héraclite, celui de Marc Aurèle, celui de ce moine dont je parle, tibétain, qui a été plongé dans des fosses à Purin après avoir été, qui lui, victime de la répression chinoise, qui lui ne faisait pas un acte, comment dire, de dévouement, de charité quand il était torturé, etc. Mais il se disait en permanence, mon esprit, je l'ai. Personne ne pourra me l'enlever, même sous la torture. Alors, nous, on est tout petit tout à côté de ça, bien sûr. Mais ce n'est pas un acte de foi, ça. C'est une croyance absolue en la plasticité, un peu, de notre esprit, au travail qu'on peut faire à notre esprit. La musculature, quoi. Pour le corps.
Quand vous parlez de corps et de sport, on pense à endurance aussi, l'endurance.
Ah, c'est pas de la tarte tous les quarts d'heure, effectivement, de faire ça.
C'est un travail de longue haleine, oui.
Attends, qui a dit que c'était facile ? C'est épouvantablement compliqué. Et comme vous le disiez très justement aussi, il y a des gens qui, de manière innée, presque, ont cette sorte de capacité à la joie. Parce qu'au fond, je crois que tous... C'est le creuser, c'est la joie quand même. Ont une capacité à la joie que d'autres, pour des raisons d'enfance ou des raisons de vous voyez, ça peut être très multiple, l'ont moins. Mais on peut sarcler le terrain. On peut biner chaque jour avant, pour planter sa salade de là. Hein, oui, c'est vrai, je crois en ce type de travail parce que pour avoir été médecin pendant de longues années, et puis comme tout être humain ici que nous sommes tous les... nous savons très bien que nous avons affaire. Ça n'a rien à voir avec un discours de curé ou de gourou, ça, mais nous savons très bien, et moi je l'ai vécu en tant que médecin, que nous avons tous, nous butons tous sur les mêmes choses. La peur de mourir, la jalousie, la rancœur, etc. Je veux dire qu'il ne faut pas être sorcier... Pour se dire qu'on est tous voilà, c'est pour ça que moi dans mon travail je l'ai après avoir été très gravement malade, ça a été une merveille d'avoir été très gravement malade parce que tout s'est effondré. Donc au bout d'un moment, tout ce qu'on croyait dans la vie facile, séducteur, agréable, tout s'est cassé la figure. Alors c'est dramatique, mais je sais que personnellement, j'ai eu des fenêtres que je croyais inexistantes par l'ignorance, qui se sont ouvertes grâce à ça. Et c'est un des cadeaux de mon existence qui a fait que mon métier de médecin a basculé tout d'un coup. Donc, tout ça pour dire que oui, je crois en notre grande égalité de pulsions, qu'elles soient de vie, de mort, avec des petits détails, c'est vrai.
D'ailleurs, justement, je voulais vous demander, dans la nuit de Bicêtre, vous évoquez justement votre passage au sanatorium pendant de longues années, quand vous étiez adolescente. Et évidemment, dans Le Veilleur infidèle, il est question de cette petite fille qui passe plusieurs années au sanatorium. Donc je voulais vous demander justement quelle était la part d'autobiographie dans ce livre.
Toute la première partie est parfaitement autobiographique. Voilà. La première partie, à part que j'avais une sœur et que dans le livre, elle n'y est pas. Pourtant, elle est très, très aimée. Mais... ensuite, non, ça a été, sans faire du dépeçage, mais il y a eu une déflagration excessivement violente qui a touché, pour des raisons diverses, la maladie et un deuil très profond, mes deux enfants, qui m'a littéralement foudroyée. Donc, ne pouvant pas parler de cette chose-là et aimant profondément mes enfants et réciproquement, il a fallu que... Donc j'ai fait une espèce de poule, comme quand on ramasse quelque chose, on fait une brassée de fleurs, et j'ai concentré ça de manière peut-être un peu maladroite dans ce qui pour moi pouvait être la chose la plus extrême qui pouvait m'arriver, c'est-à-dire perdre un enfant et un homme qu'on aime. Bien, donc voilà, je peux le dire ici, puisque je ne l'ai pas dit ailleurs, hein, devant un auditoire aussi nombreux, cela est plus simple et plus facile. Donc, je me suis peut-être perdue dans les méandres, mais vous avez, voilà. Donc,
oui,
la tuberculose était parfaitement exacte, oui. Et là aussi, une tuberculose, alors, non, ça fait un peu... Ça prête à sourire, l'addition, comme ça, les strates de souffrance. On dit, bon, là, elle exagère, quoi. Elle en rajoute une couche et encore une couche, etc. Bon, mais comme pas mal de gens le savent, c'est des choses qui existent.
Et puis l'expérience de la solitude, surtout.
C'est une très belle expérience, ça. Ça, c'est une très, très belle expérience. Parce que le veilleur, justement, il aime souvent il aime la solitude. Il aime... un enfant de 12 ans, moi j'ai pas connu j'ai pas fait mes études pendant jusqu'en troisième. On m'avait formellement interdit de faire la médecine, ce qui bien sûr m'a merveilleusement stimulé pour la faire. Mais ça m'a permis de comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, ça n'a rien d'original. Beaucoup de gens qui ont connu la mise à l'écart comme ça, liée à dans l'enfance en particulier, à une exclusion de la vie dans tout ce qu'elle peut avoir de pétillant, de joyeux, de libéré. C'est très ennuyeux parce que ça vous donne le tic de retomber toujours dans la même ornière. Et c'est contre ce tic que j'ai dû lutter en ce qui m'a concerné. Mais en même temps, la contrepartie venait du fait que la solitude, ça fait germer des choses. Hein. On lit plus facilement, on écoute la musique, on est sensible aux toutes petites choses de la vie. Et ça, ce sont des beaux cadeaux.
Notre littérature est riche de grands écrivains médecins. voilà, donc je sais que dans un de vos livres, je pense que c'est dans le premier même, vous parliez de Réversy, par exemple. Je ne sais pas si vous avez ressenti une filiation avec ces écrivains-là, que ce soit, je ne sais pas si vous connaissez Chauviret ou
oui. Après. On ne sent pas la filiation.
En fait. Mais comment on entre en littérature, justement, quand on est médecin? Pourquoi on entre en littérature? Et justement, est-ce que c'est quelque chose qui vient de plus loin, ou est-ce que c'est le fait d'avoir envie de comprendre des choses de l'être humain et de pouvoir les exprimer autrement?
Je crois que si vous voulez, alors ça aussi c'est peut-être un acquis, j'en sais rien, je ne sais pas. Où, j'aime la lucidité. J'aime la lucidité. Le reste m'ennuie. Alors. J'ai donc ressenti pendant que j'étais médecin, je travaillais beaucoup, et tout d'un coup j'ai ressenti, comme le dit Miguel Torga, qui est un écrivain
aussi.
Portugais, dermatologue, qui dit qu'il écrivait lui comme une purge. L'écriture était pour lui une purge. Et là, le premier mouvement de l'écriture a été, ce qui est extrêmement banal aussi chez toute personne qui écrit, ça a été une recherche, enfin une manière d'avancer les yeux ouverts dans ce qu'on a à vivre. Et je trouvais en particulier que il y avait quelque chose qui pouvait sonner faux dans mon rapport là au patient, qu'est-ce que ça veut dire, ce médecin toujours impeccable, qui a pas de soucis, qui a pas de problème, qui est calme, qui est joyeux, qui est vraiment Il y en a qui rigolent, au fond. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une vérité. Mais dessous, il y a, comme tout le monde. Et je retrouve une fois de plus d'égalité, en quelque sorte, avec les autres. Donc, ce travail d'écriture m'a permis de flanquer en l'air un peu toute cette illusion que peuvent avoir beaucoup de médecins de se trouver, tout simplement parce qu'ils sont derrière l'autre côté du bureau, de se trouver vraiment des gens très, très importants, quoi. Voilà, on est vraiment... c'est pour ça que ce livre a été parfois assez critiqué par le monde médical, parce que la figure du médecin était un peu malmenée. Hein. Donc, ce qui m'a poussé à écrire, c'est un besoin de clarifier, au fond, si vous voulez, je n'ai aucun mérite, mais aimant la lucidité, eh ben, ça m'a permis de mieux voir mes patients aussi, avec le retrait de l'écriture, de mieux comprendre des choses, et de mieux aussi comprendre ce lien qui nous unit entre un patient et une... et de démystifier aussi l'image du médecin impeccable. Voilà, ça m'a beaucoup attaché, ça m'a beaucoup intéressé.
Et vous avez continué ?
Oui, j'ai continué, oui. Mais après, ça, c'est
à écrire,
chose.
Je veux dire.
À écrire, oui, oui, à écrire. Oui.
Justement, avec parce que c'est vrai que c'est un livre, enfin, le contre-visite, c'est vraiment un livre de témoins. Enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est un récit, on est ancré dans, ouais. On est ancré dans le quotidien, dans le réel. Mais c'est un livre génial, hein, vraiment, je vous conseille ça, vraiment, c'est vraiment un bonheur. Après, il y a le pas vers la fiction, quand même. Comment on passe du récit, du témoignage à la fiction ?
La fiction, je crois que je ne sais pas écrire de fiction pure, voilà. Je crois que je bégaye dans l'écriture. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, mais ce n'est pas non plus très, très original, mais au moins je le vois, c'est que j'écris le même livre depuis le début. C'est-à-dire un peu, y compris avec celui qui s'appelle Le Livre de Jeanne, qui est l'histoire d'une femme qui maintenant a 89 ans, qui est donc un jour rentrée dans son magasin, dans une petite mercerie, enfin un petit foutoir exactement, où il y avait les culottes qui trempaient dans les bacs pour laver les cheveux. Il y avait les portants pour mettre sous lesquels elle dormait, pour mettre les manteaux, tout ça, les chapeaux, les souliers, enfin un capharnaüm qui m'avait tout le temps fascinée. Et donc, je suis rentrée un jour dans cette boutique, à Le Cat, pour ne pas le nommer exactement, et elle m'a dit, c'est embêtant, elle ne me connaissait pas du tout, je cherche un écrivain. Et à partir de là, j'ai écrit. Mais ce n'est pas une fiction, j'ai raconté sa vie. Ça n'est pas tout à fait une fiction. Donc, je crois que je suis un peu impotente pour faire une fiction véritable. Ça m'est difficile, je crois, quand je vous dis que je répète le même livre, parce qu'au fond, c'est finalement le même fil conducteur qui m'intéresse. Comment on fait pour s'en sortir ? Comment on fait pour tenir droit ? Voilà. C'est compliqué et bête en même temps. Mais c'est mon truc à moi, quoi. Parce que j'ai peut-être plus de difficultés que quiconque. Je le dis en postulat, hein.
Alors donc on connaît votre engagement auprès de ces populations, beaucoup de tziganes, beaucoup de gens qui ont été vraiment malmenés aussi, hein, dans la vie, qui ont été déracinés. J'aimerais savoir en fait si témoigner pour eux, enfin en tout cas travailler avec ces gens, je suppose que ça vous apporte évidemment beaucoup. Mais est-ce que c'est aussi une manière d'échanger des choses entre vous, vous leur donnez quelque chose, de la dignité sûrement, avec votre regard, et eux, qu'est-ce qu'ils vous apportent ?
Oui, moi je trouve que votre remarque me plaît beaucoup, parce que si souvent on m'a accolé l'image du médecin très généreux, tout ça, très engagé. Je crois qu'il y a dessous autre chose de plus important. C'est-à-dire que j'avais déjà commencé en première année à m'occuper de prostituées dans une maison qui les recevait. Et très vite, dès la première année de médecine, j'ai été en contact avec les tziganes qui étaient sédentaires. Et je crois que ce n'était pas forcément par générosité, par pulsion généreuse. Ça devait y être, mais vous voyez, là, c'est encore la lucidité qui est en marche. C'est, je crois, qu'ils m'ont beaucoup appris et que j'ai trouvé, à côté de notre société globale, comme on peut le dire, très policée, j'ai découvert chez eux une sorte de liberté sauvage. Par exemple, chez eux, je prends ce détail, les vieillards ne sont jamais mis en maison de retraite. C'est une chose qui n'existe pas. Quelqu'un qui a un handicap n'est jamais mis dans une maison. C'est tout ça englobe. Donc il y a... Alors ça peut voler, ça gueule, ça rouspète, ça... Oui, mais... Il y a cette sorte tout naturellement, de prise en charge de tout le monde, par tout le monde. Et ça, c'est... Et puis, bon, quand on voit... Moi, j'ai le souvenir d'un type dansant, d'une femme enceinte dansant le flamenco, là, un jour, comme ça, à côté d'une flaque d'eau dans un camp sauvage. Je crois que je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau, d'aussi fort. Donc toute la générosité dégoulinante qu'on peut m'affubler, en premier lieu, il y a, je crois, cette espèce d'émerveillement parfois devant la... C'est très ennuyeux de souvent d'être dans... On parle du dernier film, du dernier livre, du dernier voyage. Et là, c'est autre chose, tout d'un coup, qui se passe. Hein? Voilà, on voit une femme qui regarde le jet d'eau comme ça dans le soleil avec un bonheur. On voit des choses qui sont dures aussi, qui sont dures, mais qui fracturent notre quotidien habituel. Donc, voilà, je crois que j'ai bien répondu à votre question.
D'ailleurs, moi, j'ai été particulièrement saisie par les images des voyages dont il est question dans la vie de cette femme. Alors, il y a plusieurs voyages dans la vie de cette femme. Il y a un voyage en Roumanie et un voyage au Yémen.
Ça aussi, c'est autobiographique. Hein,
justement.
Complètement.
Les images, vraiment les moments dans ces voyages sont vraiment saisissants, vraiment, de beauté et de force, de puissance. Et alors, surtout, particulièrement, l'épisode des chevaux sauvages. Alors, j'aimerais bien que vous racontiez cet épisode, parce que moi, je le trouve magnifique. Alors, c'est drôle, parce que j'ai lu un livre, il y a quelques temps de ça, de Toussaint, qu'on a beaucoup aimé ici, où il est question d'un cheval fou, comme ça, qui est rattrapé comme ça sur un tarmac. Alors, c'est une vision magnifique, géniale. Mais celle-ci, elle est vraiment pas mal non plus. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez
les chevaux,
dans quelles conditions ça s'est passé. Parce que ce côté sauvage comme ça,
et simple
en
même temps.
Cette image magnifique aussi.
Où le veilleur était en action.
Et où le veilleur est en action.
C'est-à-dire que sous la tente, le couple dort. On s'est disputé, on s'est réconcilié, on fait l'amour, tout va bien, les montagnes s'engloutissent, la lune arrive, et puis en cours de nuit, on entend des bruits autour de la tente, la peur monte, et l'aube se réveille, il passe la tête par la petite fermeture éclair de la tente, il la remet direct. Brutalement, ce sont les chevaux sauvages de la montagne qui attaquent la tente. Et alors l'homme sort complètement affolé, hurle, essaie de cogner sur les chevaux qui, eux, impavides, continuent leur tranquille saccage. Et là où le veilleur s'est mis à ce moment-là, c'est là où, je fais une incise, l'approche du veilleur est rendue aussi peut-être possible par... une sorte de travail sur le souffle qui fait qu'au lieu de haleter comme ça en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les chevaux vont nous flanquer, ils vont peut-être nous attaquer, etc. » Il y a eu le réflexe le veilleur a suscité le réflexe de dire « On calme le souffle, on ralentit le souffle. » Et à ce moment-là, le corps étant calmé, en quelque sorte, c'est-à-dire les muscles étant détendus, le souffle étant ralenti, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Et au lieu que ce soit la panique qui soit montée, c'est au contraire l'émerveillement qui atteint cette femme qui regarde les chevaux qui bouffent les quignons de pain, le fromage, qui font tomber la tente, enfin bon, bref. Et l'homme regarde sa compagne qui est là comme une espèce de divinité, comme une sorte de sorcière, et qui est en fait très tranquille parce que son veilleur, entre guillemets, lui a permis de ralentir le souffle et permis, par la même occasion, au lieu de se laisser submerger par la panique, de regarder ce qui se passe. Et ce qui se passe était très beau. Très beau, il n'y avait pas à avoir peur. Bon, la tente est fichue, le pique-nique est fichu, les sacs de... D'accord, mais après tout, est-ce que c'est si grave que ça? Et les chevaux sont repartis sous la lune. Donc l'intervention du veilleur. Oui, mais c'est, si vous voulez, c'est là où... Enfin bon, on ne veut pas faire de... Mais où un certain travail sur le corps... c'est-à-dire, ne serait-ce que très, de manière très bête, enfin, centré sur le souffle, fait que automatiquement, actuellement, vous avez des tas de travaux qui sont d'ailleurs scientifiquement prouvés même par IRM, par résonance magnétique, c'est-à-dire que dans le cerveau, à partir du moment où il y a le souffle, tout bêtement, c'est bête comme marcher, où le souffle se ralentit, eh bien, il y a d'autres ondes qui s'installent dans le cerveau. Et le cerveau est un crétin. Hein. Le cerveau est un crétin, c'est-à-dire que si on lui donne à manger de l'affolement et de la panique, alors le souffle va s'accélérer et on n'a que les images d'affolement qui arrivent. C'est une histoire qui a l'air comme ça... Quelle a l'air dérisoire, mais c'est une chose gigantesque, je crois. Et je ne comprends pas comment les analystes actuellement ne se servent pas de cette approche, parce que ça pourrait vraiment souvent aider considérablement. Pourquoi toute l'humanité, quand même, depuis les philosophes, enfin les premiers philosophes, ou même les textes Vedanta d'autrefois, bien... On considérait qu'il fallait faire un travail sur soi. C'est que tout de même, tout le monde sait qu'on a du boulot sur la planche. Et qu'on soit boulanger, philosophe ou vendeur de pommes, on a le même boulot à faire. Hein.
Vous dites d'ailleurs que le courage vient plus de la peur. De la peur d'affronter les choses, plutôt que d'une véritable décision.
Oui, souvent on est contraint au courage. On est contraint au courage et donc on est sans doute dans l'affolement souvent. Et il faut absolument qu'on cherche une issue, une lumière, une fente quelque part, une brèche quoi. Il faut s'en aller de cette douleur. Il faut essayer de s'en aller. Comment faire? On peut avaler des drogues, c'est une solution. On peut se passer par la fenêtre, ça n'est une seconde. On peut aller faire une analyse, ça n'est une troisième, qui n'exclut pas les autres, du tout. Mais on peut, toutes les choses bonnes à retrouver, la joie, quelle qu'elle soit, sont bonnes à prendre. Pour vous, ce sera ça. Pour peut-être vous, ce sera autre chose.
C'est vrai que vous avez beaucoup abordé la douleur dans vos livres, et on sent que à partir de votre recueil de nouvelles, Morte saison sur la ficelle. Alors c'est ça. Bon, là aussi, c'est un grand titre. On sent quand même petit à petit une obsession de la mort, enfin quelque chose autour de la mort qui se rapproche, alors quelque chose.
Oui. Eh oui.
Voilà.
Quand on a l'âge de jancer, on s'en fiche de la mort. Et puis effectivement, les taux, on sait qu'on doit y passer. Donc autant vaut-il tenter, et je pèse chacun de mes mots, tenter de ne pas louper la sortie. C'est-à-dire, il y a un poète qui disait ça, d'Adelsen, il faut mourir guéri, debout. Voilà. Savoir de manière un peu répétitive,
oui.
pas obsessionnelle, mais répétitive, qu'on est mortel,
c'est
voilà. une sacrée relance pour chaque instant de la vie.
Oui. Marie, est-ce que vous aimeriez nous lire un petit bout de votre livre, ou est-ce que vous préférez que je le fasse?
Je sais pas, vous le...
Ça serait bien, oui, que ce soit...
Qu'est-ce que vous voulez qu'on lise?
Ah, mais ce qui vous fait plaisir.
Les chevaux, mais je sais pas si vous m'avez parlé des chevaux.
Ah non. Oui, les chevaux.
Non, mais qu'est-ce que vous voulez?
Vous avez envie de...
Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais je l'ai détruit en parlant, mais enfin...
Oui, parce que j'aime beaucoup aussi la fin. La fin. Bon, en même temps, c'est peut-être plus intime, mais c'est vraiment très, très beau. Les pages que vous consacrez à l'être, la lettre qui a disparu, elles sont vraiment magnifiques.
Alors, heureusement, elle n'est pas disparue.
Ah, mais ça me fait bien
plaisir. Alors, c'est formidable.
Alors, ce que vous voulez...
Oui, bon, c'est quelqu'un d'un peu qui a peut-être pour retrouver un peu, et c'est un peu énervant d'ailleurs, vivant aux côtés d'un individu comme ça, c'est merveilleux, mais on a l'impression que il y a pas de boulot pour lui, c'est ça. On a l'impression que la pulsion de la joie dont je parlais tout à l'heure, elle était là, elle est là. Et donc, l'héroïne, de très gros guillemets, évoque à nouveau cet homme en faisant une curieuse fusion avec le veilleur dont elle a parlé. Souvent été récompensée, elle lui parle, hein, elle lui parle parce qu'il a disparu, et souvent été récompensée ton inlassable attente de l'écureuil qui sautait de branche en branche dans le noyer, celle plus redoutée, plus rare, mais tout aussi jubilatoire, du héron, qui, de son vol lent et lourd dans le plus grand silence, avait le culot de venir chaparder dans le bassin du jardin la dernière carpe coy semblable à de l'or achetée par tes soins une semaine plus tôt. Ton attention se mobilisait tout entière sans se laisser distraire une seconde. Tu devenais le peuplier, l'écureuil, le héron, la lumière rasante sur le jasmin, la toile d'araignée qui se tissait dans la rigoureuse perfection de sa géométrie suspendue au cœur du buisson écarlate de la sauge, tu devenais les nuages, dont les fantastiques et lentes transfigurations te ravissaient plus que tout, noyés dans les lumières du couchant ou dans celles de l'aube. Poète sans mots, tu savais oublier qui tu étais en devenant ce que tu contemplais. C'est pas beau, hein. Enfin, je veux dire, ça, il faut le faire quand même. À côté de toi, toujours distraite par un bavardage intérieur harassant, j'étais la besogneuse de la contemplation, je n'avais pas ta grâce. Parfois, par le biais laborieux de l'attention au souffle, c'est là où on voit la besogneuse là, qui pédale, je parvenais, et par intermittence seulement, à quitter ce moi encombrant qui savait trop bien cimenter l'espace. Ton veilleur à toi, c'était le vent, les arbres, les poissons, les oiseaux et toute la nature dans ce qu'elle pouvait avoir souvent de plus modeste, de plus ordinaire. La première ficaire laquée de jaune dans le fond du jardin, les champs labourés dans une campagne rase, le caquettement rêveur des poules aux abords d'une ferme, les vaches devant leur abreuvoir, un chien qui aboyait au loin. Ton veilleur à toi, c'était encore et surtout cette bonté toute grande ouverte et toute grande et si ouverte que parfois je la prenais pour un manque de clairvoyance, parce que tu ne pouvais regarder les êtres qu'avec confiance, celles que tu portais en toi, sans jamais d'a priori. Voilà, tu aimais, on peut, etc. etc.
Voilà. Bon, c'est très beau, après elle nous dit qu'elle ne fait pas de fiction, enfin en tout cas, elle écrit. Enfin,
c'est presque voilà. Pas de la fiction, ça.
Oui, mais c'est de toute beauté, en tout cas. Voilà, Marie, en dernier lieu, je voulais juste vous poser une dernière petite question à propos de votre éditeur, parce que nous sommes ici aussi à l'occasion du centenaire de la maison Gallimard. Et voilà, je voulais savoir si vous aviez... Enfin, quel rapport vous entreteniez avec cette maison?
Oh ben excellent, dans la mesure où le premier livre a été pris par... par cette merveille qui était Claude Roy, que, pour lequel j'avais vraiment une vénération. Et puis ensuite, ils se sont appelés, après j'ai été prise, enfin il a passé le livre à Pontalis, le premier livre, et puis ensuite à Roger Grenier, ils se sont tous les trois appelés les pieds nickelés. Donc moi j'ai eu une chance, inouïe de pouvoir tisser des liens de, je peux dire de tendresse presque avec mes éditeurs qui ne sont plus tout jeunes, mais qui sont très vigoureux en littérature. Le dernier livre de Roger Grenier, voilà, ce sont des jeunes. Le dernier livre de, je ne sais pas si vous l'avez lu, de Roger Grenier, Le Palais des Livres. J'ai énormément aimé ce livre parce que ça, c'est aussi un travail très nouveau pour Roger Grenier, où généralement il se tient toujours en retrait, mais où là, il explique ce que c'est qu'écrire, et il explique ce que les risques qu'on peut prendre. En étalant la vie privée, etc. C'est très prenant, c'est très beau. Il a des citations magnifiques, voilà. Et puis JB, les livres de JB Pontalis, dont moi j'avais adoré L'amour des commencements, qui pour moi a été un livre très important dans ma vie, voilà. Je remercie particulièrement Mme Krabos derrière et Jean C. Et vous, je vous remercie vraiment doublement d'avoir fait l'effort de venir. Vous étiez là et merci, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer vraiment. Et donc, je vous dis un grand merci.